Bah, du coup, vous savez déjà beaucoup de choses sur moi, donc je vais faire moins que 5 minutes, logiquement. Mais ouais, en gros, je m'appelle Tom, j'ai 22 ans. Et bah, je vais un peu vous raconter comment j'ai rencontré Dieu, tout simplement. Faut savoir que moi, je suis né dans une famille chrétienne. Donc mes parents sont sur Nancy, ils sont, et depuis toujours, je suis allé à l'église de la DD de Nancy. Et en gros, ils nous ont élevés, moi et mon frère, ma sœur, dans la foi chrétienne. C'est comme ça que j'ai grandi. Mais ça n'a pas empêché que je commence à faire ma petite vie à gauche à droite. En gros, c'était un peu ma culture familiale, la culture de l'église, mais j'y allais de manière un peu désintéressée. Et c'est là où les soucis ont commencé à venir toquer un peu à ma porte, où très tôt, j'ai commencé à tomber dans une addiction qui est la sexualité. Donc à partir de 9-10 ans, je suis tombé là-dedans. Et j'ai grandi avec tout ça. Donc ça allait croissant, de manière croissante. Et donc, dans mon adolescence, je faisais des choses encore plus pires, ça ne se dit pas, mais vous comprenez, etc. etc. Et avec d'un côté une sorte de vie que mes parents ne connaissaient pas du tout, et que même ma famille, etc., les autres ne connaissaient pas, et de l'autre côté, l'image que j'avais du bon petit fils de chrétien à l'église, etc., c'était pas en face du tout entre qui je montrais et qui j'étais vraiment. On va dire que ça a commencé à me peser, parce que plus ça allait, plus je me rendais vraiment esclave un peu de ces addictions, de ces choses qui me tenaient. Et ça a commencé à me peser, à me peser, à me peser, à me peser très fort. Et pendant mon adolescence, je me souviens de soirées entières où je pleurais de voir ce que j'étais, en fait, tout simplement, de voir les choses mauvaises que j'étais, les cœurs que je pouvais briser, etc., tout ce qui allait avec, les conséquences que ça avait. Et vraiment, on se sent impur, quoi, on se sent mal. Et je m'en souviens d'un soir où j'étais vraiment à bout et j'ai pleuré extrêmement fort et je me suis rattaché à la seule personne qu'au final j'avais entendu parler, que mes parents ont parlé depuis toujours, et ça c'est cool en vrai du coup parce que je remercie Dieu pour ça, mais j'avais entendu parler de Jésus. Alors même si j'avais jamais réellement capté ce qu'il était, et ben ce soir-là je lui dis je suis trop malheureux et j'ai rien d'autre, je lui disais juste je suis trop malheureux, et je m'en souviens j'ai pleuré, j'ai prié comme ça pendant plusieurs heures. Jusqu'à ce que je sois trop fatigué et que je m'endorme. Et là, il s'est passé un truc un peu fou. J'ai commencé à rêver. Et dans mon rêve, j'ai vu Jésus devant moi, dans sa gloire, sur son trône, entouré d'anges. Et j'étais extrêmement impressionné par cette vision. Et là, ce Dieu infiniment grand et plein de pouvoir au-dessus, il a fait une chose simple. Il s'est baissé vers moi et il m'a tendu la main. Et je me suis réveillé parce que j'ai eu peur. Du coup, en me réveillant, parce que j'ai eu peur, la première de mes pensées, c'était « Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas pris sa main? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas récupéré ?» C'était vraiment, pour moi, j'avais loupé ma chance, en fait. Mais il y a un truc qui est entré en moi, c'est que cette image, j'arrivais plus à l'enlever, et j'ai commencé à m'intéresser à lui, aussi simple que ça. Donc, j'arrêtais pas ma vie d'à côté, mais j'ai commencé à m'intéresser à lui, et à le rechercher, etc., etc. Et en faisant ça, c'est aussi simple que ça, mais je commençais à aller à l'église, et quand on entendait peut-être il y a ça dans ton cœur, là ça me parlait, ça avait des impacts, etc. Jusqu'au jour, je me souviens, une soirée où il y avait, c'était Bouge ta ville Nancy, ou je ne sais plus où, c'était un cap, c'était un truc qu'on fait avec les ADD, cap Est. En gros, c'était une soirée de jeunes, et il y avait un concert, et je ne me souviens plus du contexte, plus de rien du tout, mais je me souviens juste que tout d'un coup, mon esprit s'est éclairé, et j'ai vu tout ce que j'étais au regard de Dieu. Et j'ai commencé à pleurer encore parce que Dieu, dès qu'il veut nous parler, bah, il nous fait pleurer, j'ai l'impression. Et c'est là où j'ai dit, bah, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je suis désolé de ça et je te le donne. Et je lui ai demandé pardon pour ce que j'étais, je lui ai donné ma vie. Et ensuite, c'est une grosse histoire. Mais bon, vu que j'ai 5 minutes, je vais faire court. Mais, et ensuite, je me suis continué à m'intéresser à lui et à vivre pour lui, à vraiment... Bah, vouloir le considérer comme mon sauveur. Et quelques temps après, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, donc j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai commencé à exercer des choses, etc. Enfin, c'était génial. Et je me suis dit, bah, je vais me faire baptiser. Donc j'ai commencé à me faire baptiser, donc je me suis fait baptiser. Et le truc, c'est que je serais malhonnête de dire que tout a fini comme ça et que maintenant c'est génial. C'est faux. Les anciens travers que j'avais sont revenus. Et étant revenus, ils ont même été pires qu'avant. Avant, je vivais une fausse vie et maintenant, j'étais vraiment accroché à Dieu, mais je n'arrivais pas à lâcher ces choses. Et pour faire court, je vivais beaucoup un peu en vague, en montagne russe. En gros, des bons moments avec Dieu où vraiment j'étais sincère pour lui. Et quelques jours après, je redescendais, je me disais comment ça se fait que je peux faire ça, etc. Et ça a duré longtemps, plusieurs années. Et en fait, à force de grâce de la part de Dieu, à force d'amour, à force de parole, à force de, d'entourage aussi avec les autres qui m'ont conduit, etc., j'ai réussi à comprendre que Dieu, ce n'était pas juste mon sauveur, mais ça devait être aussi mon maître, ça devait être aussi celui à qui je veux tout donner, à qui je veux tout confier. Et j'ai fait vraiment en plus ce choix de « je veux vivre pour toi ». Et j'ai commencé à un peu me bousculer, me bouger le derrière, si je peux dire ça comme ça, et ça a marché. Dans le sens où Dieu m'a accompagné, Dieu m'a élevé, et je pense que sans sa grâce, j'aurais pu retomber et quitter la foi. Mais il m'a gardé, et maintenant, je peux dire que je vis en toute sainteté, libéré de ces choses, et je commence vraiment à expérimenter la marche quotidienne qu'il y a avec Dieu, qui est juste merveilleuse, et à vivre la foi, à ne pas savoir où on va aller. Pour ceux qui ne savent pas, il y a encore 2 mois, j'étais censé être dans un master dans une autre ville. Au final, Dieu, il a dit stop, il a dit non, c'est pas ça que je veux pour toi. Et aujourd'hui, je suis avec vous et je pense que je vais m'y établir. et voilà, quoi, c'est un peu mon parcours. Et je remercie le Seigneur parce que malgré tout ce que j'ai fait de mal, tout ce que j'ai vécu, derrière, il m'a montré un bagage qui m'a montré vraiment son amour, sa grâce, qui m'ont permis de passer au-dessus et de maintenant vraiment le servir avec un cœur vrai et sain, quoi. Voilà. Wow.
Merci beaucoup. Hein. Trop bien, trop bien. Merci Seigneur. Hein. Cet après-midi, nous allons parler du plus américain des psaumes. Je laisse le... Vous avez allergie contre le drapeau américain, non? Ça va? Non, pas d'allergie. Alors, le plus américain des psaumes, hein? Ou peut-être on peut même dire un psaume hollywoodien. L'éternel combat entre le bien et le mal. Le juste et le méchant. La belle et la bête. Le bon, le brut, le truand. Ou 99% des films qui mettent en opposition le bon et le mauvais. Mais ce n'est pas simplement dans les films, hein. Que c'est la façon de voir des Américains. Hein. C'est toute leur vie, hein. Hein, c'est ça, cette opposition. C'est l'American way of life, on dit. Hein. C'est la façon de voir des Américains le monde. Hein. Si vous entendez M. Bush parler de la guerre, alors moi, le bon, le gentil, qui combat pour Dieu, il faut terrasser les méchants arabes quelque part en Irak. Hein. Trump, oh, c'est pas beaucoup différent, hein, c'est avec sa publicité électorale sur le pot de Biden, hein, qui représente le mal absolu dans les yeux de Trump. Hein. Il existe un film américain, malheureusement, je voulais chercher son titre, vous le trouvez, je pense, même sur Amazon Prime, si je ne me trompe pas, qui parle d'un entraîneur d'une équipe de football américain. C'est des vrais losers. Hein? Et ils sont pauvres et ils ne gagnent jamais. Mais hein, quand l'équipe, sous l'influence de l'entraîneur chrétien, commence à faire confiance à Dieu, le monde change. Ils arrivent au final, et là, voilà, vous connaissez, en dernière seconde, hein, il gagne. Mais pas que ça, hein. Parce qu'ils sont devenus chrétiens, ils ont aussi des grosses bagnoles après, et tout le monde a des grosses maisons, tout à coup. Voilà. C'est... Voilà. En Amérique, si tu es chrétien, tu vas gagner beaucoup de sous, et tu vas... Voilà, c'est comme ça. Hein? Alors, vous allez comprendre, après une première lecture de notre psaume, pourquoi je dis ça. Hein? Heureux l'homme... Vous l'avez, hein? Hein? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas à la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa vie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient à la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Et nul pécheur ne maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel approuve la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Un texte facile à diviser, hein? Bien construit. Il y a le héros dans le verset 1 à 3, il y a le méchant pas beau dans les versets 4 et 5, et il y a Dieu qui s'en mêle dans le verset 6. Alors, voilà le héros, verset 1 à 3. Si je continue à peut-être un petit peu faire la comparaison avec Hollywood, si c'est dans un psaume hollywoodien, il commencerait comment? Heureux l'homme beau et musclé, hein, à qui il y a la plus belle femme et qui roule en Aston Martin. Et qu'il, malgré qu'il souffre un moment, va finalement gagner à la fin. Parce qu'au moment où il est dans les mains du méchant, il ne tue pas parce que le méchant doit d'abord lui raconter sa vie. C'est ça le mot. Mais dans la Bible, le gentil n'est pas décrit comme ça. Hein? Comment il est décrit dans ce psaume? Le gentil, le juste. Est-ce qu'on peut le comparer à James Bond? Il y a trois choses, il y a trois versets. Et sur chaque verset, je vais dire un petit peu quelque chose. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Le juste, d'abord, il fait attention à son entourage. Le verset nous dit que le juste ne se laisse pas influencer par son entourage. Il a des situations qu'on ne peut pas éviter. Hein? Parce que nous, en tant que chrétiens, on est demandé d'être des témoins. Et des témoins, on est parmi ceux qui sont méchants, hein? Si on peut dire ça comme ça. Hein? On n'est pas toujours entouré des chrétiens dans la vie, au boulot. Hein? Dans le monde, nous sommes confrontés à des mauvaises influences. On l'a entendu, hein, dans le témoignage de Tom. On est confrontés. Hein? On peut, on dit parfois, né entre deux pages de la Bible, hein, comme Tom. Hein. On peut être né vraiment parent chrétien et tout ça, mais il y a quand même des influences qui sont là un peu de partout. Des mauvaises influences et peut-être même des moqueries sur Dieu et sur des autres personnes. Ce n'est peut-être pas toujours possible de les éviter, mais c'est toujours possible de ne pas se laisser influencer. Mais parfois, parfois, c'est aussi grave de rien dire que pas seulement de ne pas rigoler avec. Hein. Comprenez ce que je veux dire? Parce que si vous êtes toujours à côté de ceux qui se moquent de tout le monde et peut-être de Dieu, et voilà, vous rigolez peut-être pas, mais vous dites jamais rien, c'est aussi grave que rigoler avec. C'est trop facile de ne pas prendre position. C'est trop facile. Et ça, c'est un de mes grands problèmes perso. C'est mon héritage suisse. Mais c'est vrai. Toujours rester neutre. De ne pas se mettre là ou là, pas se mettre les gens sur le dos. Alors on essaye, et ça vous avez déjà remarqué, quand je dirige parfois un réunion, j'ai dit souvent rien, peut-être parfois même dans les situations où je devrais dire quelque chose. Parce que c'est ça vraiment mes, ma difficulté. C'est certainement louable d'éviter des conflits, mais ce n'est pas forcément une grande aide pour l'avancement d'une église. Et après, il y a aussi parfois des moments où il faut subir simplement. Parce que le témoignage à long terme est plus important que ma fierté. Je me rappelle, on était invités, je pense que c'était pour une première fois, chez des amis, étaient encore à Belleville, et c'était les gendarmes. Et, à l'armée. Et si tu as un gendarme tout seul, c'est très gentil. Hein? Mais si tu as deux gendarmes, ou trois en même temps, là, alors il se moquait de moi, il se moquait de Dieu, il se moquait de tout. Hein. Et alors tu dis, est-ce que tu dis quelque chose? Est-ce que tu t'élèves? Est-ce que tu pars? Est-ce qu'il faut que je subisse ça? Finalement, je n'ai rien dit. Et maintenant, 20 ans plus tard, ils viennent, ils passent chez nous à la maison. Là, il s'est passé et il m'a demandé à la fin, oui, mais tu pries pour moi parce que c'est dangereux sur la moto, etc. Parfois, subir un moment est peut-être mieux parce que le témoignage est là à long terme. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelles relations me font du bien est la question qu'il faut se poser. Dans la vie, quelles relations que j'ai me font du bien? Avec qui je m'entoure? Et comment ces relations influencent ma vie? C'est ça, les questions qu'il faut se poser. Ce n'est pas forcément la question qu'il faut se poser. Comment je peux éviter tout le monde? Comment je peux éviter quelqu'un qui est peut-être pas comme n'importe, hein, mais comment je me laisse influencer par les autres, dans mes pensées, hein, dans mes paroles et dans mes actes? C'est ça qui est... Verset 2. Le juste aime la parole de Dieu. Toute la joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. C'est vraiment sa priorité. Pour le bon, la parole n'est pas seulement sympa à lire ou utile pour connaître Dieu. La parole de Dieu est son bonheur absolu. Son bonheur absolu. Il le lit, il le médite jour et nuit. C'est la chose qui ne le quitte jamais. Dans le texte parallèle, Josué, il dit dans Josué 1, versets 7 et 8, « Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Il ne s'agit pas seulement de méditer la loi de l'Éternel jour et nuit, mais Josué dit, l'appliquer aussi. Pas seulement le connaître, mais aussi le faire. C'est très important. C'est très important, hein, si vous lisez la Bible, que le Josué et aussi le psalmiste, là, hein, ils ne parlent pas au pasteur. Hein, parce que les pasteurs, de toute façon, ils ne font rien d'autre que lire la Bible jour et nuit. Hein, pas que au pasteur. Hein. Ils s'adressent au peuple Israël, qui sont la plupart des paysans. Et des paysans, ils s'élèvent très, très, très tôt le matin, se couchent très tard le soir, qui ont une grande famille à côté, qui n'ont pas de tracteur, ni de machine à laver, ni de micro-ondes, ni de gazinière. Alors, arrêtons de dire que nous n'avons pas le temps de méditer la parole de Dieu jour et nuit. N'arrêtons pas. On a le temps. Les gens à l'époque, ils savaient le temps de méditer la parole de Dieu. Ils savaient le temps. Ils prenaient ce temps. Ou Moïse et le psalmiste les encouragent. Prenez ce temps-là. Ils savaient qu'ils ont beaucoup à faire. Mais malgré tout, gardez cette parole dans votre cœur. Peut-être que je n'ai pas expliqué que quand le psalmiste parle de la loi de l'Éternel ici, hein, ça parle des cinq premiers livres de l'Ancien Testament. Hein, parce qu'à l'époque, ils n'avaient que les cinq livres, hein, les livres où Moïse a écrit. Ils n'avaient pas encore les prophètes et tous les autres livres. Hein, alors seulement pour... Peut-être le livre de Josué est écrit à cette époque, mais autrement, c'est tout. Alors, le juste aime la parole de Dieu, c'est le deuxième. Et dans le verset 3, le juste profite de sa justesse. Je ne sais pas si ça existe, ce mot. Hein. De sa justesse. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient à la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Plus tard, Jérémie, il va reprendre exactement cette idée. Hein. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel, dans le chapitre 17, versets 7 et 8 en Jérémie, hein, et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Il ne cesse de produire du fruit. Il semble que Dieu aime récompenser. C'est quelque chose qu'on trouve de tout début de la Bible jusqu'à la fin. Cette idée, Dieu aime donner. Matthieu 6, 33. Quelqu'un sait par cœur? À pur hasard? Au moins, si vous connaissez un verset, on dit, voilà, celui-là. Alex, il connaît un chant 14-6, mais celui-là, c'est aussi un... Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Il a même un chant chrétien. Hein. Cherchez d'abord, quelque chose comme ça. Hein. Faites du royaume de Dieu votre première préoccupation. Et toutes les autres choses, Dieu vous donne en plus parce qu'il aime récompenser, il aime donner. Éphésiens 3, 19, 21. Oui, à nouveau un verset qui commence avec vie. Hein. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire. Dieu aime donner. Il aime donner même beaucoup plus que nous pouvons nous imaginer. Encore un autre, Marc 10, 29, 30. Vraiment, je vous l'assure. Si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'Évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres et dans le monde à venir, la vie éternelle. Dieu aime donner. Je pense que ça suffit hein, pour un... Ah non, encore un, pour le porte-monnaie, hein. C'est toujours bien pour ton porte-monnaie. Hein. Malachi 3, 10. Hein. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple. La dîme, c'est un peu l'impôt que le peuple a donné pour les prêtres. Hein. C'est les impôts d'aujourd'hui ou ce que vous donnez à l'église, etc. Hein. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Paf hein? Ça, un Dieu qui aime donner à ceux qui sont prêts à donner de leur côté. Alors, c'était le dernier pour la route. Hein. C'est ça le juste dans la Bible. Hein. Quelqu'un qui fait attention à son entourage, fait attention avec de qui il se laisse influencer dans la vie. C'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu et qui, quelqu'un qui est sous la bénédiction de Dieu. Et voilà, dans les versets 4 et 5, voilà le méchant pas beau. Hein. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Après le gentil, le juste, le bon, nous nous tournons vers le méchant du film. Hein. Vous avez des exemples? Dark Vador, Joker, Shan Yu. Vous connaissez Shan Yu? Il est méchant comme tout. Hein. Le Mulan, hein. Oh là, Mulan, hein. Faux. Ça, c'est un méchant. Scar, Sauron, Hannibal Lecter, je ne sais pas. Ils sont connus pour leur cruauté, leur soif de pouvoir et de destruction. Des personnes qui existent et qui existaient aussi dans la vraie vie. Là, c'était que des personnes inventées, d'une façon ou d'une autre. Alors, nous voulons nous demander, psaume 1, comment il voit le méchant? Il nous a donné un aperçu du juste. Mais comment est le méchant? Il ne dit pas grand-chose. Hein, c'est l'identité du méchant. Il y a deux mots qui l'identifient. Hein. Ce sont les mots pécheur et moqueur. Quand l'auteur parle du méchant, il parle de quelqu'un qui décide de ne pas se soumettre à Dieu. Hein, c'est ça, la phrase. Ne pas se soumettre à Dieu. Quelqu'un qui veut vivre sa vie tout seul, sans faire cette confiance en Dieu. C'est le mot pécheur. Hein. Et quelqu'un qui s'oppose carrément à Dieu. Hein. Ça, c'est le moqueur. Hein. Hein, y a celui qui essaye de vivre sans Dieu, qui le laisse à côté, je n'ai pas besoin de lui. Et c'est celui qui s'oppose carrément. Il dit, hein, on entend, hein. Qu'est-ce que... ouf, oh là là, moi, le président, notre président. Macron. Qu'est-ce qu'il a dit? On a le droit de blasphémer. Non, c'était ça? Hein, pour un hepto, là, on a le droit de blasphémer. Mais, oh là là, on ne peut même pas dire... Pardon, hein. Non, je ne dis rien, parce que c'est enregistré. Hein. Attention, hein. Je voulais dire quelque chose. Mais beaucoup de choses, on n'a même pas à dire à quelqu'un. Et lui, il peut dire, il ose... Moi, j'étais furieux. Alors, l'identité de méchant, quelqu'un vit vraiment exclure Dieu de sa vie. La vie du méchant, c'est après assez léger. Hein. Il est comment? Il est comme le vent, comme la paille. Hein, ça ne tient à rien. Hein, si tu mets le feu, et c'est parti. Il a peut-être très... Et parfois, je regarde trop les infos, hein, je sais. Et parfois, je suis jaloux. Hein. Je suis jaloux du monsieur qui a inventé Amazon. J'aurais aussi pu inventer Amazon. Et aujourd'hui, on aurait un palais comme église. Hein. Vous ne pouvez même pas imaginer. Avec 200 milliards, qu'est-ce qu'on pourrait... on pourrait même faire une église sur la Lune hein, avec cet argent-là. Parfois, je suis même jaloux. Oui. Mais sa vie, c'est comme du paille. Ah, c'est comme, vous vous rappelez la parabole que Jésus raconte? Le riche là qui dit, ah voilà, je vais encore faire plus de greniers. Hein, comme maintenant, il a 200 milliards et bientôt il a 400. Hein, il va encore plus de greniers. Et Jésus va dire, qu'est-ce que tu peux vraiment profiter de ça? Si tu es mort, tout ça, il faut tu. C'est ça la vie. Hein. Peut-être c'est important ici. Si tu es un star ou quelque chose comme ça, on te demande pour tout. Qu'est-ce que tu penses de la fin du monde? Et ils ont tout le monde a à dire quelque chose. Mais finalement, leur vie, à la fin, c'est tellement léger. Et la fin du méchant, et là, ça commence à être tragique. Là où le juste peut vivre protection, bénédiction, les méchants vont être confrontés à la solitude. loin de Dieu et loin de la communauté des hommes. Vous savez peut-être, quel était le moment où Jésus était le plus terrorisé? Quand il était accroché à cette maudite croix, et il a dit, « Pourquoi tu m'as abandonné? Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Ça, c'était le terreur absolu pour Jésus-Christ. Et ça, c'est le terreur absolu qu'un homme ou une femme peut vivre jamais. D'être que Dieu n'est plus là. Que Dieu n'est plus dans sa vie. Que Dieu ne garde plus la terre. Ne garde plus la vie. Abandonnée. Solitude. Peut-être pour ajouter encore quelque chose sur le méchant. Le 100% méchant n'existe pas. Dans chaque vie, il y a de l'espoir. Même chez les pires. Même chez Hitler, hein, qui est pour beaucoup l'incarnation du mal. Vous savez, il aimait les animaux. Il aimait les enfants. Et les enfants, ils l'aimaient trop. Je ne sais pas si vous avez déjà un peu vu la vie privée de lui. Les enfants, ils venaient vers lui, prenaient dans ses bras, etc. J'ai lu l'histoire une fois, une histoire vraie, vraiment un serial killer psychopathe qui sortait de sa maison pour faire un de ces trucs horribles. Et quand il était en rue, il l'a raconté plus tard, quand il était sorti, il a pensé qu'il n'a pas donné à boire à ses plantes. Il a fait demi-tour et il est allé arroser ses plantes dans la... Il n'a pas une seule personne qui est 100% méchant. Il y a toujours quelque chose de gentil, quelque chose qu'on apprécie dans chaque vie. Et je pense que ça, c'est aussi la chance de chacun. Ça n'enlève rien de leur méchanceté. Mais ça laisse une lueur d'espoir pour chacun. Vous n'allez jamais rencontrer personne qui est totalement perdu. Chaque personne que vous allez rencontrer dans la vie, il a un espoir pour cette personne. Il a peut-être un mot à dire, même dans la méchanceté le plus méchant. Et il a un espoir que le Seigneur veut changer ce cœur. Hein, vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est important, hein? Heureusement, notre histoire ne se résume pas seulement entre les justes et les méchants. Heureusement, il y a Dieu qui s'en mêle dans ces histoires. Et je termine avec ce verset 6. Oui, à nouveau un verset avec vie. Hein? Oui, car l'Éternel approuve la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Approuve la voie suivie par les justes. Pour les justes, ça veut dire reconnaissance. Dieu est avec nous. Dieu nous soutient. Dieu dit oui à ma vie. Dieu est là, incroyablement présent, incroyablement bienveillant. Hein? Dieu est là. Et pour le méchant, marqué banqueroute. Hein? Mais, et peut-être c'est aussi pour ça que nous avons entrepris cette tâche vraiment difficile d'implanter une église ici à Pompée. Mais peut-être, certainement c'est pour ça. Peut-être que j'espère que c'est une banqueroute guérissante. Une ruine qui fait réfléchir. Une ruine qui a le fondement pour un nouvel départ. Parce qu'on peut toujours reconstruire. Pour que chacun de nous puisse dire un jour heureux l'homme. Rappelez le début de heureux l'homme. Et c'est pour ça que nous nous donnons ici. Pour que des gens autour de nous qui sont encore loin peuvent dire un jour heureux l'homme. Parce qu'il n'y a personne qui est totalement perdu. parce qu'il y a cette lueur d'espoir dans chacun. Et je m'encourage, moi, personnellement, mais j'encourage vous aussi, hein, de sortir, hein, avec cette idée. Sortir de cette idée, Dieu a de l'espoir pour chacun. Hein. Il nous fait tellement du bien. Hein. Et c'est alors à nous avec ceux qui nous donnent, distribuer aux autres. Pour que de plus en plus de personnes peuvent lire ces versets et dire « Heureux l'homme ». Ah voilà, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Et il est mon Sauveur aujourd'hui. Voilà.